Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre Deux Mers, 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Bonjour à nos invités. Mais oui, au fond, mais c'est ça, oui, nos auditeurs sont nos invités. Voilà.
Et oui, tout à
voilà.
fait.
On rentre chez eux par le biais de la radio, mais ils sont nos invités. C'est paradoxal, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et merci de vous recevoir chez vous, hein, là, pour une petite heure de cinéma.
C'est ça, on va parler des sorties de la semaine.
On va parler des sorties de la semaine. Ben, on va commencer par un film d'animation. Bah oui, moi j'aime bien, tu sais que j'aime bien Damien parler des films d'animation, parce que j'aime beaucoup les enfants, donc c'est très agréable pour moi quand je peux leur proposer un joli film d'animation. Et celui-là, ma foi, c'est un joli film, ça s'appelle Abominable. Il ne faut pas se fier au titre, hein. Non, non, ce n'est pas un film abominable, c'est un joli film, ça, qui commence d'ailleurs sur le toit d'un immeuble à Shanghai, avec l'improbable rencontre d'une jeune adolescente, l'intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis, Jin et Peng, vont tenter de ramener chez lui celui qu'ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l'intention de capturer la créature, car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant. Ouh, sacrée histoire. C'est à partir de 6 ans. Hein, et le conseil, à partir de 6 ans, ma petite copine Aya va pouvoir y aller. Ça dure 1h37, mais c'est vraiment très très beau. C'est une réalisation de Jill Kelton. Alors Jill Kelton et Todd, attends, ils sont deux, hein, deux co-réalisateurs. Jill Kelton, c'est une réalisatrice, scénariste, auteure d'ailleurs aussi, américaine. Elle a 44 ans et elle est avec Todd Wilderman, qui est un directeur d'écriture américain. Et en fait, ils travaillent quand même ensemble depuis une vingtaine d'années. Donc, ils font de jolies choses, ils se connaissent bien, c'est du bon travail, c'est vrai. Alors, Abominable, en fait, c'est le premier film d'animation DreamWorks dont l'héroïne est une fille. C'est un détail amusant, ça, quand même. La réalisatrice, en fait, elle s'est inspirée de très gros chiens avec lesquels elle a grandi. Et oui, ce sont des chiens de chasse la plupart du temps, mais ils sont comme de gros enfants, baveux, maladroits et crasseux, nous dit-elle. Elle se souvient en particulier d'un Danois de 90 kilos que possédaient ses voisins alors qu'elle avait 5 ou 6 ans. Un jour, il s'est mis à nous poursuivre, raconte-t-elle, avec une de mes amies. En courant, je suis tombée par terre. Il m'a immobilisée au sol. Je pouvais sentir son souffle et son regard qui me fixait de manière intense. Depuis ce jour, je n'ai eu que des molosses. Ils font partie de ma vie, comme une présence aussi imposante que rassurante. C'est joli ce qu'elle nous dit, Jill Kelton. Ah oui, alors DreamWorks, je précise quand même, hein, quand je dis c'est le premier film où il y a une fille qui est une héroïne, une jeune fille, DreamWorks, c'est la société américaine de production des films et des séries télévisées d'animation, qui a été créée d'ailleurs, cette société, je crois que c'était en 1994. Voilà. Eh bien voilà, nous, les dames, les demoiselles, nous sommes à l'honneur dans Abominable, puisque nous sommes l'héroïne. Voilà, c'est très beau, c'est vraiment... Est-ce que, Damien, est-ce que tu... Je sais pas
j'ai si... J'ai une bande-annonce et que je te fais écouter tout de suite.
Merci.
Nainaï, il faut que tu consacres plus de temps à ta famille.
Où tu vas?
Rentre à temps pour dîner.
Fais attention à toi, chérie.
Pas de garçon.
Je gère, bye.
Mon rêve, c'est de m'échapper. Papa voulait que je voyage pour découvrir le monde. Un jour, je le ferai. Hein? Ah! Il y a un Yeti sur mon toit. Salut, petit. Ou petite. Ah! Oui, je confirme que t'es bien un garçon. Je sais pas d'où tu viens.
Alerte rouge!
Il s'est échappé. Je veux récupérer mon Yeti!
C'est là-bas, ta maison? Non, je rêve. Je ferai en sorte que tu puisses rentrer auprès de ta famille. Everest n'est qu'un enfant!
Arrête de taper dessus!
Alors, ça, c'est toi et tes parents.
Oh, t'as les yeux de ta mère.
Il y a des gens qui te cherchent.
Plus vite, allez! Tu fais de la magie? C'est génial!
C'est impossible!
J'aurais aimé que papa voie ça.
Ouais, maman, Pékin, c'est super. Oh, Peng, Peng va bien.
Il nous rattrape!
C'est le violon de ton père?
Mon père jouait pour moi tous les soirs, comme s'il me disait que, même si le voyage est difficile, il faut jamais renoncer.
C'est magnifique!
C'est toi qui l'as fait, Yi!
C'est moi qui ai fait ça?
Quand Yi décide de faire quelque chose, rien n'est impossible.
Everest!
Des myrtilles?
Ouais! Oh non!
J'ai des myrtilles partout, y compris à des endroits où elles ne devraient jamais se trouver.
Voilà, Abominable, donc le dernier film des studios.
Des studios DreamWorks.
DreamWorks.
Et oui, et c'est la première fois, donc c'est important ça quand même, parce que ça veut dire que là, ça change aussi, ça évolue. C'est la première fois que l'héroïne est une jeune fille. Et oui, c'est toujours des garçons d'habitude. Ah, ça c'est une... Hein, et oui, c'est un joli film. La musique est très jolie aussi. C'est du bon travail quand même. Hein. Ils sont habitués tous les deux, là, hein. Les deux réalisateurs. Là. Ils font du bon travail. Alors, après, on va passer à une comédie française dont on entend énormément parler en ce moment sur les ondes et à la télévision. Ça s'appelle « Hors normes ». Et les interviews ne cessent, effectivement, ne cessent de passer en boucle quasiment sur les émissions, en tout cas, qui parlent de cinéma et même à la radio. Alors, on va suivre, on va aussi en parler, hors normes. C'est donc, je l'ai dit, une comédie française de... Alors, ils sont deux, ils travaillent toujours ensemble aussi, d'ailleurs, comme les précédents, là, pour Abominable. Pareil, c'est un tandem de cinéma, Eric Toledano et Olivier Nakache, un co-réalisateur, scénariste français. Alors, ils ont quand même eu déjà 15 prix et 45 nominations. Bon... Hein, on suppose qu'ils connaissent leur travail, il n'y a pas de problème. Et là, Hors Normes a une nomination au Festival de Cannes 2019 dans film de clôture. Donc c'est quand même... c'est un beau film, hein. C'est l'histoire de Bruno et Malik qui vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et des adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Ça dure 1h55. Alors, on a un très beau casting. De toute façon, Eric Toledano et Olivier Nakache ont toujours soigné leur casting. Ça, c'est important, mais ils le font vraiment très bien. Alors, on a Vincent Cassel, Reda Kateb. Alors, ce sont justement, c'est Bruno et Malik, quoi. Ce sont les deux personnes qui s'occupent de ces enfants et de ces adolescents, qui font un travail merveilleux. On a Hélène Vincent, mais on les connaît tous, en fait. Hein. Si on a un peu l'habitude du cinéma, on les reconnaît, il n'y a pas de problème. Il y a Frédéric Pierrot, Alban Ivanov, qu'on connaît absolument, Catherine Mouchet également. Il y a Brian Mialoundama. Il y a, voilà, c'est vraiment le beau casting. Alors, en fait, juste pour rafraîchir quand même, Eric Toledano et Olivier Nakache, par exemple, nous ont proposé Intouchables. Oui. C'est eux, Intouchables. Hein. C'était quand même déjà en 2011. Ouh là, ça passe. On en avait parlé, normalement, d'Intouchables. Est-ce qu'on avait parlé de ce film? Non, non, parce qu'à l'époque...
C'était avant. L'émission n'existait pas encore.
Ouais. Il y a eu Samba en 2014, il y a eu Le sens de la fête, celui-là on en avait parlé par contre, en 2017. Il y a eu Je préfère qu'on reste amis en 2005 aussi, voilà. Et Nos jours heureux en 2006, bref, vraiment des films superbes. Hein. On comprend hein, qu'ils aient eu 15 prix et 45 nominations, ça s'explique un peu. Alors c'est titré, hors norme, c'est titré « Simple, beau, nécessaire, une leçon d'humanité ». Alors, il y a quand même... juste pour rappeler que le Intouchables, par exemple, c'était quand même un événement à l'époque, puisqu'il y a eu 19 500 000 entrées. C'est le plus gros succès de tous les temps en France. Je rappelle parce que ça a quand même été un événement, ce film, qui passe sans arrêt, d'ailleurs, hein, sur beaucoup de chaînes, qui repasse et on ne s'en lasse pas. C'est vrai. Il faut dire que c'était quand même vraiment un petit chef-d'œuvre. Alors, bon, en fait, on a plusieurs longs-métrages hein, qui ont déjà abordé le thème de l'autisme. Hein. C'est vrai. On a eu, il y a un petit moment déjà, c'était en 1989, il y a eu Redman. Déjà, on commençait à comprendre un peu Dustin Hoffman et Tom Cruise. On commençait à voir un peu. Sauf que là, quand même, c'était un autiste qui frisait un peu le génie, quand même, hein, puisqu'il avait. Il n'était pas défavorisé. Hein, c'était quand même. Donc, c'était juste une petite approche. Ça n'a rien à voir avec hors norme, qui, au contraire, là, touche justement des jeunes gens, des adolescents qui sont. Qui viennent de quartiers difficiles et dont on ne parle jamais. Voilà. C'est la grande qualité de ce film, en fait, hein, justement. Sinon, il y avait eu aussi, en 2015, il y avait eu Le goût des merveilles, aussi, hein, avec Virginie Efira. Il y avait eu aussi un documentaire en 2016 qui s'appelait « Dernières nouvelles du cosmos ». Qui parlait de l'autisme. Et il y a eu en 2018 aussi, on en avait parlé ici sur Radio Entre-deux-Mers, il y a eu Monsieur Je sais tout, avec Arnaud Ducré. Si c'était, c'était des sujets comme ça. Donc c'est un très beau film. En même temps, c'est entre cinéma et réalité. Ouais, c'est ça. Hein. Alors ils ont trouvé des acteurs autistes hein, pour le film. En fait, Eric Toledano expliquait qu'ils ont scanné toutes les associations de Paris et de la région parisienne et ils sont tombés sur Turbulence, qui est une compagnie artistique qui emploie des personnes présentant des troubles de la communication, autisme et troubles apparentés. Voilà, par exemple. Hein. Alors, ils se sont, pendant 2 ans quand même, ces deux co-réalisateurs se sont immergés au sein des deux associations. Et au bout de ces 2 années, ils nous disent... Notre motivation s'est décuplée. Si au départ, faire ce film découlait d'une forte envie, c'est devenu, au fil du temps, une nécessité. Voilà. Ils évitent absolument les clichés dans ce film. C'est vraiment... ils dressent des portraits poignants de personnalités extraordinaires. Écoutez, s'il y a un film à voir là, maintenant... si vous aimez le cinéma, si vous aimez ces deux réalisateurs qui ont fait quand même de très jolis films, allez voir Hors Normes. Il est beau. Ça vaut la peine.
Et on écoute la bande-annonce.
Merci, Damien.
Et si on te demande comment tu es venu?
En métro.
En passant par quelle station?
Saint-Lazare.
Et ensuite?
Porte de Champéret.
Yes.
Je vais tout déchirer.
J'espère bien. Enfin, pas tout quand même. Hein.
Serge, deuxième.
Centre de jour médicalisé.
Centre d'accueil de jour médicalisé. T'as oublié le A.
Désolé.
Tu triches. Si, je t'ai vu.
Le diagnostic, c'est quoi?
C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale. Il est mineur, elle demande un placement judiciaire.
Ça nous laisse combien de temps, ça?
Environ 15 jours.
Je vais trouver une solution.
J'imagine.
Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution.
C'est qui, ce couple-là?
Ah, c'est les inspecteurs.
L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur.
Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité.
Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer.
Je ne vais pas être en atelier musée une fois.
Pour moi, je vais vous dire, il y a ceux qui vous regardent plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres. Et croyez-moi, ils ne sont pas nombreux.
Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants?
Tu prends trop de boum, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros.
Nous, c'est à vous qu'on se raccroche.
La plupart des encadrants ne sont pas diplômés.
Vous connaissez beaucoup de diplômes qui préparent à se manger des droites toute la journée?
L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture.
Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule?
Oui, allez, vite fait. Allez, viens.
Voilà, hors norme, donc, le dernier film de Toledano et Nakash.
Oui, c'est très beau. Hein, c'est très... Moi, j'ai des frissons, là, quand j'ai entendu la dernière phrase. Effectivement, à un moment donné, il me dit, est-ce que je peux poser ma tête sur ton épaule? Et voilà, et l'autre le prend la tête sur l'épaule. C'est, voilà. Enfin, ben, j'espère que ça marchera quand même, parce que ça vaut la peine. Hein.
Oui, j'en doute pas trop.
Ouais,
c'est
moi
de
non
très
plus...
bons acteurs, oui. De bons réalisateurs.
Oui.
Ça devrait fonctionner.
Et c'est un beau film, en fait. Hein. Qui tombe absolument pas dans le pathos, ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment... c'est cinéma, mais c'est aussi la réalité. Hein. C'est entre les deux, donc c'est beau. Ensuite, enfin, moi, ça me touche, en tout cas. Hein. Il faut absolument, ce film. Ensuite, j'ai un drame japonais, qatarien, Ouzbékistan. Bah oui, 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 l'Ouzbékistan aussi. Hein, fait du cinéma. Ça s'appelle Au bout du monde. Et oui, c'est un. Enfin, l'Ouzbékistan, c'est quand même. C'est en Asie centrale, hein, je crois. Parce que je me suis posé la question après. C'est une ancienne république soviétique,
oui,
en fait.
Fait.
Ouais, c'est ça, voilà. Et Qatar, ben, le Qatar, c'est le pays de la péninsule arabique. Donc on connaît quand même, là. Au bout du monde, c'est de Kiyoshi Kurosawa. Kurosawa, c'est un nom qu'on connaît bien quand même. Hein. C'était le grand, grand, grand réalisateur qui s'appelait Akira Kurosawa, et qui a fait des films merveilleux. Et là, c'est Kiyoshi Kurosawa. C'est un acteur, il est réalisateur, scénariste japonais. Il a 64 ans, il a déjà eu 2 prix et 48 nominations dans sa carrière. On suppose qu'il connaît aussi, justement, hein, qu'il connaît bien le cinéma. C'est l'histoire d'un reporter, quelqu'un qui est reporter pour une émission populaire au Japon. Yoko tourne en Ouzbékistan, sans vraiment mettre le cœur à l'ouvrage. Son rêve est en effet tout autre. En faisant l'expérience d'une culture étrangère, de rencontres déconvenues, Yoko finira-t-elle par trouver sa voie? Yoko, c'est une jeune femme, hein, qui est reporter et qui a besoin de retrouver autre chose dans sa vie que ses reportages. Alors, on a dans les rôles principaux Atsuko Maeda, c'est Yoko. On a Ryo Kaz, on a Chota Sometani et Tokyo Emoto. Et ce sont des... Ils sont connus, hein. Ils sont connus, ces acteurs, j'ai vérifié. Atsuko Maeda, là, elle tourne beaucoup. Donc, c'est... Alors, les Japonais... Ah oui, quelque chose d'extraordinaire. La bande-annonce est en version originale, donc on ne va pas la passer, ça ne sert à rien à la radio, évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas les images, donc il faut au moins les paroles. Mais quand on regarde la bande-annonce originale, on entend la musique qu'on entend dès le départ... C'est quand même une chanson d'Edith Piaf, l'hymne à l'amour. C'est la musique de l'hymne à l'amour. C'est magnifique. Les Japonais, en fait, aiment beaucoup Edith Piaf. Hein, et ils chantent beaucoup ces chansons en japonais. Mais là, c'est juste la musique. Je crois que c'est du violon, d'ailleurs. dès que ça démarre, on entend l'hymne à l'amour, voilà. Dans ce film, il n'y a que des Japonais, il n'y a pas de Français, je veux dire, il n'y a pas de Qatariens, il y a... Voilà, bon, c'est... Voilà, ça m'a fait un drôle d'effet, si bien que j'ai remis au début. Si vous avez l'occasion d'écouter la bande originale, mes chéris, moi, j'ai remis au début pour écouter, pour avoir encore cette, cette musique de l'hymne à l'amour. C'est quand même... C'était... Ça a dû te... L'hymne à l'amour, c'est 1950, hein, si je me souviens bien. Et oui, et oui.
C'est pas impossible.
Eh bien, les paroles étaient d'Edith Piaf dans l'hymne à l'amour. Et je ne savais pas qu'elle avait écrit l'hymne à l'amour. Et la musique était de Marguerite Monod, qui, elle, effectivement, a écrit beaucoup de... a composé beaucoup de musique pour Edith Piaf. Mais j'ignorais qu'elle avait écrit les paroles de l'hymne à l'amour. Cette petite bonne femme extraordinaire. Voilà. En tout cas... On a la musique dans Au bout du monde. C'est pour ça, en plus, ça dure 2 heures. C'est joli. C'est joli. Et puis, voilà. Alors, je voulais vous donner ce titre-là. Eh oui. L'hymne à l'amour. Alors, ensuite, j'ai une comédie française. Oui, voilà. C'est la suite, je pense, d'ailleurs. Ils avaient fait déjà les municipaux. Ça s'appelle Les municipaux. Trop. C'est trop. C'est de Francis Ginibre et Éric Carrière. Bon, bah, c'est toujours eux.
C'est hein, les Chevaliers du Fiel.
Voilà, c'est les Chevaliers du Fiel. Donc, ils sont acteurs, ils sont réalisateurs, producteurs associés. Voilà, ils sont pareils. Hein, ils ont les mêmes. Ils ont 60 et 62 ans. Donc, il n'y a pas de doute, ils sont bien ensemble. Voilà. Alors, c'est quoi ? Ben, c'est le charmant, dans le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés municipaux. Il est secoué, donc ce charmant petit port est secoué par une rumeur. Le maire, aidé du chef de service énarque et parisien, donc ils ont le noir dessein tous les deux de réduire l'effectif des salariés communaux. Ah là là, la révolte gronde, le syndicat majoritaire, puisque unique, il n'y en a qu'un, des municipaux, organise la riposte. Le secrétaire national en personne vient en consultation. Sur sa proposition, une décision historique est prise. Les municipaux feront la grève du zèle. Voilà, ça c'est l'histoire. C'est à peu près toujours un peu hein, les mêmes thèmes. Donc on a Éric Carrière et Francis Ginibre, évidemment, dans les rôles principaux. On a Bruno Locher, qu'on aime bien. Hein, il a beaucoup de talent, cet homme-là. On a Sophie Mounicot, Lionel Abelansky, Liane Folly, Marthe Villalonga, Chantal Latsou. Voilà, il y a plein de gens qu'on connaît. C'est un petit casting sympathique. Alors, le premier s'appelait « Les municipaux, c'est héros ». Si je me souviens bien, c'était en 2018. Donc, ils ont rapidement, en fait, ils ont rapidement suivi, comment réaliser le deuxième, finalement. C'était en avril 2018, on est en octobre 2019. Oui, ça a quand même été assez, assez rapide. C'est... Et Éric Carrière, je crois qu'il avait aussi écrit une série en 2016, la série « Les municipaux », je crois. C'est lui qui avait réalisé.
Je sais qu'ils avaient fait un sketch, mais
il y avait
pas
une série,
série.
Ouais,
c'est possible.
Voilà, c'était Éric Carrière, oui, c'est ça. Et en fait, y a pratiquement les mêmes acteurs que dans le premier. Hein. On retrouve les mêmes, voilà. Donc c'est bien. Bon, bah, pour les fans, mes chéris, ça c'est pour les fans hein, des Chevaliers du Fiel. Ma foi, hein, si vous les aimez, allez voir la suite quand même là. Ensuite, j'avais un drame britannique, belge, français. C'est un beau film, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Sorry, le titre c'est Sorry, we missed you. Ça veut dire en fait, désolé de vous avoir manqué, quoi, un truc comme ça. J'ai fait une petite traduction rapide comme ça. Damien me fait oui de la tête, donc c'est comme lui il est doué. Donc c'est que je ne me suis pas trompée dans la traduction. Voilà, merci Damien. Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et leurs parents travaillent dur. Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés. Ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est maintenant ou jamais. Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique. Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille. Ça dure 1h40, c'est de Ken Loach. Ben oui, Ken Loach, on le connaît évidemment, Ken Loach. Hein, Ken Loach, c'est quand même moi, Daniel Blake, pour lequel il a eu, en 2017, le César du meilleur film étranger. On en a parlé d'ailleurs ici, hein, Radio Entre deux Mers. Ken Loach est un réalisateur scénariste, donc britannique. Il a 83 ans, il a eu 15 prix déjà et 110 nominations, et oui. Et pour ce film, il a 12 nominations au Festival de Cannes 2019. Alors, bon, vous direz, bon, il a déjà eu pas mal de prix, mais moi, j'aurais aimé qu'il ait un petit prix quand même, là. Bon, 12 nominations, c'est déjà... Ben, toutes, quoi. Il a été nominé pour tous les prix, en fait. C'est un film magnifique, c'est titré « Criant de vérité, d'une impeccable dignité, une œuvre poignante du grand cinéma bouleversant ». Voilà ce qu'il y a. Alors, dans les rôles, on a Abby, c'est Debbie Honeywood. Ricky, c'est Chris Hitchen. On a Rhys Stone et Kathy Proctor dans les rôles principaux. C'est vraiment, c'est Ken Loach. Hein, c'est, voilà. C'est quand il préparait, Daniel Blake, en fait, qui s'est rendu compte de l'augmentation des travailleurs indépendants ou intérimaires et que donc, il y avait matière à faire un autre film. Et oui. Il nous dit d'ailleurs, c'est une nouvelle forme d'exploitation. Cette économie de petit boulot, comme on l'appelle, la main-d'œuvre précaire, n'en cessait d'être au cœur de mes discussions quotidiennes. Et oui, pour lui, voilà, c'est ça. C'est une forme d'exploitation, c'est nouveau. Et en fait, l'exploitation est vieille comme le monde, hein, pour lui. Ce qui a changé, c'est l'implication de la technologie moderne qui permet par exemple à un client de suivre à la trace son colis. C'est un équipement hautement sophistiqué, dit-il, avec des signaux qui rebondissent sur un satellite quelque part. Le résultat est qu'une personne se tue à la tâche dans une camionnette, allant d'un point à un autre, de rue en rue, se démenant pour répondre aux exigences de cet équipement. Et oui, on n'y pense pas à ça. Quand on l'utilise, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas, Damien, si ça t'est arrivé déjà, d'appeler, de voir pour un colis. Mmh. À tous, hein, mes chéris, ça a dû vous arriver au moins une fois. On n'imagine pas la personne qui effectivement est dans la camionnette, qui va partout et qui est obligée de suivre on n'y pense pas. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est vrai finalement. Ouf, c'est un équipement extrêmement exigeant pour la personne qui s'en occupe, pour celui qui est dans la camionnette. Ils sont souvent deux, d'ailleurs, les pauvres, parce que c'est pas évident du tout. Un beau film, vraiment, vraiment quoi. C'est, je suppose que Damien nous a mis.
J'ai trouvé une bande-annonce, mais elle n'est qu'en version originale. Et je n'ai pas trouvé de bande-annonce en français.
D'accord, alors c'est peut-être pas la peine, alors, effectivement.
Du coup, voilà.
Écoutez, moi,
Ouais, c'est un film de Ken Loach avec
magnifique.
Ce côté social et engagé.
Magnifique.
Et je pense qu'il ne faut pas le louper.
Ah oui, tout à fait, Damien, tout à fait. Après, avec hors norme, c'est celui à voir aussi, quoi. Sorry, we missed you. Voilà, le film, l'affiche, c'est en anglais, hein, mais bon, voilà. C'est Ken Loach, donc je pense que vous saurez le trouver. Ouais, beau film. Il y a 2-3 beaux films comme ça là, en octobre. Alors ensuite, on va passer à quelque chose de très différent. Policier, thriller, drame, c'est italien, c'est belge, c'est français. Et ça s'intitule 5, le chiffre 5, et le numéro parfait. Ah, c'est un film d'un réalisateur qu'on connaît moins, mais qui est assez particulier, qui s'appelle Igor. Je prononce le T à la fin. En fait, son vrai nom, c'est Igor Tuveri. Voilà, c'est un acteur, c'est un auteur de bande dessinée, qui est très, très, très connu en Italie. Réalisateur, scénariste, italien, 61 ans. Ah oui, il est vraiment... Il est très célèbre là-bas en Italie. Hein. Ses bandes dessinées se vendent absolument sans arrêt. Enfin, il est très, très célèbre. Bon, nous, on le connaît moins, parce qu'on a aussi, nous, nos auteurs de bandes dessinées très doués. Donc, voilà. Donc, on le connaît beaucoup moins. c'est l'histoire de Peppino Lo Cicero. Oui, oui, c'est un ex-tueur à gages de la Camorra. Et il est fier de son fils qui gravit les échelons du crime organisé. Mais quand celui-ci est froidement tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami Toto, le boucher. Leur quête de vérité va déclencher une spirale de vengeance et de trahison dans les clans mafieux du Naples des années 70. Oui, la Camorra, je rappelle quand même, c'est la mafia napolitaine en fait. C'est une organisation mafieuse italienne qui est implantée essentiellement à Naples et en Campanie. Ah, donc c'est pour juste rafraîchir un peu. C'est avec Tony Servillo. Alors Tony Servillo, je crois qu'on dit Servillo, je crois que c'est deux L. Il est, alors lui, il est très célèbre, c'est une superstar en Italie. Alors lui, vraiment, mais faut dire que c'est un acteur extraordinaire aussi. Tony Servillo. Ouais. On a Valeria Golino. On l'aime beaucoup, Valeria Golino. Elle tourne beaucoup en France aussi, d'ailleurs. Donc on parle souvent d'elle. On a Carlo Bucci Rosso. Alors, c'est Toto le boucher là, dans les rôles principaux. C'est quand même... Alors, ce projet, la 5 et le numéro parfait, ça remonte à plus de 15 ans. Eh oui, c'est vraiment... Il y a plein de cinéastes qui ont envoyé des petits mots aux dessinateurs de BD, justement, Igor, pour réaliser l'adaptation cinématographique. Et certains, d'ailleurs, étaient napolitains. Alors voilà, donc ça fait 15 ans quand même que l'idée est dans la tête des cinéastes et de Igor Tuveri, qui travaille depuis la fin des années 70 comme auteur de bande dessinée, illustrateur, il est essayiste, il est musicien. C'est donc c'est la première fois qu'il a proposé des histoires de bande dessinée. Il est apparu en fait dans la revue Il Pinguino. J'adore prononcer ce mot, Il Pinguino. Et oui. Enfin, c'est pour ça qu'il est connu d'ailleurs, parce que c'est une revue qui est très très lue en Italie, Il Pinguino. C'est quand même... Alors, il écrit, cet homme-là, il écrit des articles, des essais, des réflexions aussi. Voilà, il fait un tas de choses. Il a reçu aussi des prix, comme le premio Napoli. Voilà, c'est pour tout ce qu'il a fait. Enfin, bon, il est publié quand même dans 26 pays, dont les États-Unis et la France également. Mais c'est vrai qu'on le connaît un peu moins, mais... Voilà, il a refusé plusieurs fois de réaliser l'adaptation. Et puis finalement, ça s'est fait. Voilà. Il a cédé. C'était quand même... Il est beau ce film. Il est très chouette. Enfin, il est beau. C'est pas joyeux. C'est pas une comédie. C'est un policier thriller. Quand il s'agit de Camorra et de tueur à gages, bon, il n'y a rien de très rigolo. Mais voilà. Mais rien que pour les acteurs, quand il y a un beau casting. Oh là, les deux, là, Tony Servillo et Valeria Golino. Ouh. Ah oui, le casting m'a beaucoup intéressé, j'avoue, parce que ce sont des acteurs tellement extraordinaires. Voilà, ensuite, j'ai mis de côté un film d'action, science-fiction américain. Bon, tout le monde connaît le titre, c'est Terminator 2. Dark Fate. Ça veut dire sombre sort, en fait, c'est le sort. Alors, c'est un sort sombre, tu m'étonnes, dans Terminator, de toute façon. Voilà, il y a un avertissement quand même. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité du spectateur. Ça, c'est important, il faut en tenir compte quand même. Et je ne sais pas si j'ai dit, là, je reviens là, sur mon policier, la 5 et le numéro... J'ai dit que ça durait 1h46, pas sûr. Mais j'aime bien donner le temps parce que ça permet de savoir combien de temps d'abord on va tenir, selon le film. Et puis, à quel moment il faut arriver pour ne pas rater le début du film, 1h46. Alors, de nos jours à Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à deux inconnus. D'un côté, Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, ah ben oui, un rêve neuf, ça s'appelle, venu du futur pour la tuer. De l'autre, Grace, un super soldat génétiquement augmenté, envoyé pour la protéger. Ouf, embarqué dans une pas le temps de course-poursuite à travers la ville, Danny et Grace ne doivent leur salut qu'à l'intervention de la redoutable Sarah Connor, qui, avec l'aide d'une source mystérieuse, traque les Terminators depuis des décennies. Déterminée à rejoindre cet allié inconnu au Texas, elle se met en route. Mais le Terminator Rêve 9 les poursuit sans relâche, de même que la police, les drones et les patrouilles frontalières. L'enjeu est d'autant plus grand que sauver Danny, c'est sauver l'avenir de l'humanité. Oui, bon, c'est toujours aussi compliqué, les Terminators, en fait, hein, l'histoire quand même. On retrouve des personnages, mais c'est quand même ouf. Alors, les Terminators, il y en a eu combien? Alors, à ton avis, il y en a eu combien?
Ça, il y en a eu 6. Enfin, c'est le 6e. Là,
voilà, parfait, parfait. Mais oui, c'est parfait. Le premier, c'était Terminator en 1984. Le deuxième, c'était en 1991. C'était James Cameron, d'ailleurs, hein, qui était à la caméra. James Cameron, c'est Titanic, hein, pour le situer. Quand même. Et puis ensuite, en 2009, on a eu Terminator Renaissance. Là, il n'y avait pas de Schwarzy. Hein. Schwarzenegger n'y était pas dans celui-là.
Il était gouverneur à ce moment.
Voilà. Et ensuite, le 2015, on a Terminator Genisys. Ah oui, Genisys. Ouais, c'est Genisys, parce que c'est un seul S. Voilà, donc c'est quand même... Alors, on retrouve dans les 1, 2, 3... On a Arnold Schwarzenegger, on a Linda Hamilton, c'est la fameuse Sarah Connor. On l'a, alors lui, Schwarzenegger, dans les premiers, il vient pour tuer Sarah Connor, dont l'enfant à naître doit sauver l'humanité. Et puis on les retrouve donc dans les trois films, dans les trois premiers. Dans le quatrième, donc il n'y est pas, et dans le cinquième, il nous revient. Alors c'est quand même, pour ces 5 films, il faut croire que ça plaît énormément parce qu'il y a quand même un chiffre qui fait rêver, il y a 15 200 000 spectateurs pour ces 5 films qui ont, voilà, c'est quand même énorme, pour ce genre de film c'est énorme. Alors, en fait, je disais, donc, il y a Arnold Schwarzenegger, donc il y a Linda Hamilton qui est Sarah Connor, ensuite on a Mackenzie Davis, elle est charmante d'ailleurs, Grace, qui fait Grace. Oui, tout à fait, l'actrice. On a Gabrielle Luna, c'est Terminator Rêve 9. C'est le fameux affreux Terminator qui veut tuer tout le monde. On a Natalia Reyes qui fait Danny Ramos. On a Edward Furlong aussi, c'est John Connor. Alors John Connor, donc, c'est un adulte qui était l'enfant de Linda Hamilton et qui devait sauver le monde et qu'il fallait absolument protéger. Ouh! On va s'en sortir, mais oui, on va s'en sortir. Alors, il a été quand même, apparemment, il a été très difficile de convaincre Linda Hamilton de sortir de sa semi-retraite pour camper à nouveau Sarah Connor. C'est quand même 27 ans après le second volume de la franchise. Et puis, elle a fini par céder. Mais ça a été un peu difficile, je crois, de la convaincre. Ça dure 2h09. Amenez vos pop-corns, mes chéris, surtout. Hein, au caramel, au sucre, au sel, mais amenez-les parce que quand même, c'est un petit peu long. Mais bon, bah c'est Terminator. Alors pour les fans, évidemment, je pense qu'ils vont se précipiter pour aller voir ce dernier Terminator. Bon, j'imagine. Bon, je sais pas si on avait un petit bout de non. Je sais pas s'il y a un petit bout.
On a la bande annonce.
Ah, c'est pas. Oui, bon. Si. Oui.
Plus vite que ça. Toi d'abord. Je m'appelle Sarah Connor. Le 29 août 1997 devait être le jour du jugement dernier. Mon fils John et moi avons empêché ça et sauvé 3 milliards de vies. C'est suffisant comme CV à tes yeux?
Pas vraiment.
T'as peut-être changé l'avenir, mais t'as pas changé notre destin. T'es quoi au juste? J'en avais jamais vu des comme toi. Presque humaine.
Je suis humaine, mais améliorée. Que les choses soient claires, j'ai pour mission de la protéger. Si tu la mets en danger, je te crève la peau.
Reçu. Ah oui. Je prends le volant.
Je vais faire un gros bip en passant. Je suis une vraie arme ambulante.
Épargne-nous tes phrases de drague.
Désolé.
Viens avec moi.
Ah.
Ah, ça chauffe.
Je reviendrai.
Écoute, si par malheur tu ne t'en sors pas, tout le monde va mourir.
Comment on arrête ce truc? On ne le combat pas. On le fuit.
Oui.
Sarah!
Sarah, est-ce que tu crois au destin?
Si on gagne pas cette fois. Tout est fichu.
Ah ouais.
Tu sais, quand on en aura fini, je te tuerai.
Alors je sais pas comment tu l'appelles le super méchant, mais il est drôlement costaud.
C'est Rêve 9. Mais Rêve R.E.V. Hein, c'est pas Rêve.
Oui, c'est pas un rêve.
C'est pas Dream. Hein. Ouais. Non, c'est pas un rêve. Non, c'est Rêve 9. Ah oui, oui.
Eh ben, dis donc.
Et au fait, le John Connor dans celui de 2009, là, Terminator Renaissance, c'était Christian Bale qui avait pris le rôle de John Connor. Oui, il l'a pris une fois. Puis là, cette fois, c'est Edward Furlong. Ah oui, Rêve 9, mais il est terrible. Il est terrible. Mais moi, ce que je conseillerais quand même à nos auditeurs qui vont aller le voir, c'est d'essayer de le voir en version originale, je crois, quand même.
Oh oui, quand même, ouais.
Je pense que ça
pour entendre les phrases aussi, ouais. Dans leur contexte.
Oui, parce que c'est pas un texte extraordinaire. C'est pas de la poésie. Hein. C'est pas du. Il y a rien de. Voilà, à part « Je te préviens, je te tuerai », bon, qui revient quand même assez fréquemment. Mais le voir en VO, je crois que c'est mieux quand même. Mais quand il passe dans les cinémas, il y a les deux versions proposées, hein, en principe. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même que c'était Tim Miller, cette fois, qui s'était collé, là. Réalisateur, créateur, c'est un showrunner à la télévision, d'ailleurs. C'est-à-dire, le showrunner, c'est quoi? Bah, c'est celui qui est responsable du suivi quotidien d'une émission ou d'une série télévisée. Voilà, il fait ça aussi. Et puis, il est producteur délégué. Il a 49 ans, il est américain. Il a déjà eu des nominations, cet homme-là, absolument. Ah, au fait, Dark Fate, là, Terminator, ça se déroule normalement. Hein, ça se déroule pendant l'année 2022. Voilà. C'est pas très vieux, quand même. Hein, 2022,
bah oui. Oui, c'est demain. Hein.
Ben oui, c'est demain, oui, justement. Oui, c'est demain. Et James Cameron, on lui a demandé ce qu'il en pensait. Lui qui avait réalisé quand même les deux premiers. Il pense que la meilleure façon de définir Terminator Dark Fate, c'est de l'imaginer comme la suite directe de Terminator 2. Le 2, qui est sorti en 1991. Voilà, c'est un conseil de James Cameron. C'est-à-dire qu'il faudrait revoir le Terminator 2 qui est sorti en DVD depuis longtemps avant d'aller voir celui-là. C'est un peu ça, quoi, le truc. Voilà. Enfin, bon, c'est amusant quand même. Ça. C'est bien fait. Hein. C'est sûr que les trucages sont formidables. Ça détend pour ceux qui aiment, pour les fans. Voilà. Ça détend énormément, quoi. Ensuite, j'avais une comédie française. Oui. Braqué Poitiers. Ouais, le titre est un petit peu curieux. C'est de réalisateur Claude Schmitz, qui est un acteur, réalisateur, scénariste. Il est metteur en scène. C'est un Belge. Il a 40 ans. Et il est connu en Belgique, par contre, j'ai regardé, ouais, il est assez estimé là-bas. Alors, c'est l'histoire de Thomas et de Francis qui braquent Wilfried, qui est le propriétaire d'un ensemble de carwash. Alors, carwash, c'est quoi? Le carwash, c'est la station lavage, hein, tout simplement, automatique, là, les stations, comme on en trouve un peu partout. Donc, il le braque contre toute attente. Celui-ci se montre ravi de cette compagne venant égayer sa vie solitaire et il est ravi de cette compagnie, je dis compagne mais non, c'est compagnie, pas une compagne, c'est une compagnie, c'est-à-dire Thomas et Francis, voilà, qui viennent égayer sa vie solitaire et il les autorise à piquer dans la caisse. Bientôt, Hélène et Lucie, deux copines du Sud, les rejoignent pour profiter de l'été à Poitiers. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas. C'est chouette comme film. C'est pas courant ce genre de film quand même en fait. C'est pour ça que je pensais que ça valait la peine. Alors on a Francis Sautens dans les rôles principaux, Thomas Depas, Marc Barbet, Hélène Bessian, Lucie Guen et Wilfried Hameuil. Wilfried Hameuil. Ah oui, mais lui on le connaît. Quand on le voit, on le reconnaît, Wilfried Hameuil, qui fait justement Wilfried. C'est quand même un Braquet Poitiers, en fait, c'est né d'un pari avec le comédien Wilfried Hameuil, justement. Le metteur en scène là, nous dit, quand je tournais mon film précédent, Wilfried est passé presque par hasard sur le tournage. Je le connaissais à peine, je savais simplement que c'était un ami de mon oncle. Il m'a parlé de son travail, de sa solitude. Finalement, il a tourné dans deux scènes sans être gêné le moins du monde par la caméra. Pendant cet été, notre communauté éphémère a sans doute représenté pour Wilfried quelque chose qu'il recherchait et désirait pour lui-même. Voilà pourquoi. Et c'est, en fait, ça paraît, c'est du cinéma, mais on a l'impression d'être quand même dans la réalité quand on regarde la bande-annonce. C'est ce qui en ressort finalement. Alors Claude Schmitz, là, c'est un cinéaste qui est amoureux de théâtre. Hein. Donc il est très porté sur le théâtre, voilà, il en a fait lui-même. Donc il réalise des clips aussi, c'est assez intéressant ce qu'il fait. Hein. Avec d'ailleurs dans les clips, il a Hélène Bressian là et Marc Barbet qui sont dans son film apparaissent dans ses clips parfois. C'est quand même voilà, c'est fiction et réalité, voilà ce que ça fait ce film en fait. Je sais pas s'il y avait une petite bande annonce, je sais pas, c'est non.
J'ai une bande-annonce.
Ah, t'as une bande-annonce.
On va l'écouter.
Il a tout, il a tout.
Ah, tout de suite, moi, je suis libre.
Alors, Wilfried est sympa. Il vit seul, pas de famille, pas d'amis, pas de femme. Dans le trou du cul du monde, au fond d'un cul-de-sac. Faut tenir à moi.
Comment on fait pour récolter l'argent, en fait, Wilfried?
Vous allez faire quoi avec l'argent? Moi, je prenez-le. Ça va me faire un manque. Ça va beaucoup me gêner, mais ce sera fugace.
Écoute, on est au soleil, on est en vacances, il y a la nana qui arrive, on va s'éclater, puis c'est bon, basta.
Il accepte qu'on lui pique sa thune. Tant qu'on le fout la paix, qu'on le laisse s'occuper de son jardin, il est content.
Vous venez chez lui, vous lui prenez son argent, il dit rien, tu trouves pas ça bizarre?
Moi je trouve depuis le début, vous êtes trop gentil avec lui.
Il n'y a pas de raison.
Oui, vous le séquestrez, point.
Tu peux comprendre que nous on a besoin de temps en temps d'être seul ou être avec notre compagne sans toi.
Et moi alors?
Pas de violence, c'est les vacances.
Pas de violence, c'est les vacances, ça roule ma couille.
Voilà, Braquet Poitiers.
Mais c'est chouette, ça peut intéresser, parce que c'est vraiment... Ça dure 1h25. Ouais, Braquet Poitiers. Ouais, attention, hein, c'est pas la porte ouverte à aller faire des casses et à se dire « Oh, bah tiens, il va me dire oui, piquer dans la caisse. » Non, c'est entre fiction et réalité, on est bien d'accord. Et là, c'est le côté fiction quand même. Hein, le gars qui dit « Prenez, allez-y, piquer dans la caisse. » Ça, c'est pas la réalité. Je crois pas. Ensuite, je voulais juste citer un documentaire français. Alors, attention, le titre est très long. « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». Ça, c'est le titre. C'est de Vincent Delerme. Vincent Delerme, on le connaît quand même. Hein. C'est l'auteur, compositeur, interprète, arrangeur musical, auteur dramatique, photographe occasionnel. C'est son premier film, il a 43 ans. C'est un film de rencontres et de questions. Alors, on a Alain Souchon, Jean Rochefort, mais aussi des anonymes. Oui. Il y a Aloïs Sauvage également, Vincent de Dienne aussi, qu'on trouve dans le documentaire. Alors c'est pour son premier film, Vincent Delerme prolonge son travail ultra sensible sur l'intime, la mémoire et les rapports aux autres. Qu'est-ce qui nous construit? Point d'interrogation. Que ressentent les gens autour de nous? Point d'interrogation. Nos émotions et sensations n'appartiennent-elles qu'à nous? Point d'interrogation. Chaque personnage, célèbre ou anonyme, livre à Vincent Delerme quelque chose de lui, définissant sa sensibilité et sa manière de voir l'existence. Témoignages qui font sourire parfois, serrent le cœur souvent, conjuguent l'intime et l'universel. En filigrane, les propres émotions de l'auteur se dessinent le long d'un film musical, photographique, dont la narration est comme un fil invisible. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, c'est tout, quoi. C'est... Et alors, il a, en fait, Vincent Delerme, j'ai découvert ça, je ne savais pas trop. Il a une plaque à Lyon, rue du premier film. En fait, c'est sur le mur de l'Institut Lumière. Et oui, il a une plaque depuis octobre 2019. Il est à côté de Lady Lee, qui a eu sa plaque en septembre 2019. Voilà. Et puis, il y a Brian De Palma aussi, un petit peu plus haut, en mars 2019. Là, il a sa plaque, donc je trouvais ça intéressant. Le Festival Lumière, en principe, se déroule entre le 12 et le 20 octobre, normalement. Donc, il est passé, là. Et donc, voilà, j'ai découvert ça. J'ignorais absolument qu'il avait une plaque comme ça. Et on a... Alors, donc, c'est tout. Il y avait... il y a aussi Eleanor Carwen. Eleanor Clarwen, c'était une actrice française. En fait, on l'a très peu vue, mais on l'avait vue dans Diabolo Monte de Diane Curis en 1977. Maintenant, elle a 56 ans quand même. Hein. Ensuite, on l'avait vue dans Le Temps des Vacances en 1979 de Claude Vital avec Nathalie Delon. Il y avait Daniel Secaldi. Et puis en 2016, en fait, c'est son dernier, là, En Douce. Elle est dans le film En Douce de Jean Genasson. Eh oui, eh ben elle est là, Eleanor Clarwen. Moi, je me souviens dans Diabolo Monte, oh, mes chéris, peut-être que moi, je l'ai vu en DVD, parce que j'ai le DVD et que je trouve que c'est un joli film. Effectivement, elle était toute jeune, très mignonne. Eh bien, elle réapparaît. Et puis, il y a Emmanuel Noblet aussi, dans le documentaire, qui est un auteur-scénariste français. Et puis, j'en oublie une aussi, Alice Rohrwacher. Alors, je ne sais pas si on dit Vareur, je pense. Hein. Rohrwacher, je pense. Alice, qui est une actrice, réalisatrice, scénariste italienne hein, de 37 ans. En fait, on avait déjà parlé d'elle sur Radio Entre-deux-Mers pour son film Heureux comme Lazaro, qui est sorti en novembre 2018 et qui a eu un prix et 9 nominations au Festival de Cannes, dont justement le prix du scénario. Elle est aussi dans ce documentaire. Donc, effectivement, il y a des gens extrêmement intéressants qu'on aime. Et puis, plus les anonymes. C'est un joli... c'est un questionnement sur l'intime. C'est un joli documentaire. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Ça dure quasiment une heure. Et puis, il y avait... Alors, celui-là, en fait, il est déjà sorti. Il était sorti le 16. Ça s'appelle « Warrior Woman ». C'est un documentaire américain que je trouvais intéressant, justement. Il y a deux coproductrices, réalisatrices, scénaristes, Elizabeth Castle et Christina D. King, qui sont américaines. Ça parle de l'occupation de la prison d'Alcatraz en 1969, combat contre le pipeline de Standing Rock en 2016. Je ne sais pas, on en avait entendu parler de ça. Effectivement, le documentaire raconte la vie de Madonna Thunderhawk, qui est l'une des fondatrices de l'American Indian Movement. C'est 50 ans de combat pour les droits des autochtones et pour la terre menée par des femmes puissantes, courageuses et rebelles. Standing Rock, en fait, pour rappeler, c'est une réserve indienne, hein. C'était là qu'il y avait eu ce combat, justement, hein, pour empêcher le pipeline d'être installé là. Alors, Warrior Woman explore la conjugaison singulière entre activisme politique et le fait d'être mère et montre comment l'héritage militant se transmet et se transforme de génération en génération dans un contexte agressif où le gouvernement colonial réprime violemment la résistance autochtone. Les peuples autochtones, premiers gardiens de la terre, qu'il devient urgent d'écouter. Eh oui. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau et que ça valait la peine. C'est l'opposition, on en avait entendu parler, c'est l'opposition à l'oléoduc Dakota Access. Je sais pas, c'était en 2016. C'était quand même, c'était un sacré combat, hein, vraiment, pour ces gens-là qui ne voulaient pas de ça sur leur terre, quoi. Ils y vivent, là. Eh ouais. C'est depuis 2016, hein, dans le Dakota du Nord. Voilà. Je voulais en parler parce que ça dure 1h04. Si vous pouvez le choper quelque part, il va sortir en DVD aussi. Et ça vaut la peine, Warrior Woman.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Anna, pour toutes ces sorties cinématographiques.
Oh oui, merci pour tes bandes annonces, pour ton soutien. Voilà. Et merci, mes chéris, quand même, de nous écouter, d'être fidèles. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez prudents, parce qu'il y a un petit peu de froid qui arrive la nuit, quand même, là, en ce moment. Et oui, malheureusement, l'été est terminé. Donc, en attendant, n'oubliez pas d'aller dans le cinéma de proximité chaque fois que vous le pouvez, bien sûr. Et surtout, surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.